Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
L'une s'appelle Virginia Woolf, l'autre Vita Sackville-West, deux femmes, deux plumes qui s'aiment et se le disent par écrit. Si le cachet de la poste fait foi, l'amour lui fait loi. C'est une histoire d'amour qui a fait couler beaucoup d'encre que nous raconte maintenant Stéphane Bern.
Heureusement que ces deux femmes savaient écrire pour s'aimer, et avec un talent incomparable, car être lesbienne en 1920 n'est pas, vous vous en doutez, des plus aisés. Je dis lesbienne et pourtant Virginia Woolf détestait ce mot. Celle qui est considérée comme l'un des plus grands auteurs modernistes du XXe siècle ne supportait pas d'être mise dans des cases. Comme les héros de ses romans, elle aimait la liberté, celle de vivre, de travailler et sur le tard, d'aimer. Pourtant, elle aussi cède aux sirènes du mariage avec un homme, Leonard Woolf. Une union qui la comble intellectuellement et socialement, mais qui s'avère être une excellente couverture. Elle peut ainsi entretenir une relation intime avec Vita Sackville, elle aussi mariée avec un homme ouvertement bisexuel. Dans tout Londres, vous et moi sommes les seules femmes à être contentes de leur mariage, confie dans l'une de ses lettres Virginia Woolf à Vita. Les deux femmes se voient pour la première fois à Londres le 14 décembre 1922 lors d'un dîner donné par le beau-frère de Virginia. Dès leur rencontre, Virginia et Vita sont fascinées l'une par l'autre. Virginia est intriguée par cette femme de 10 ans plus jeune, arborant fièrement une coupe à la garçonne et une tenue plutôt masculine. Vita ne s'en cache pas, elle apprécie les femmes. Si cette franchise déroute Virginia, l'auteur du livre à succès, Mrs. Dalloway, veut en connaître davantage sur cette trentenaire libérée. De son côté, Vita est subjuguée par l'intelligence, la culture, le génie, mais aussi la fragilité que laisse deviner Virginia. Elle l'écrit d'ailleurs à son mari juste après cette soirée. « J'adore tout simplement Virginia. Elle est à la fois distante et humaine. Je me suis rarement entichée de quelqu'un aussi fortement. Et je pense qu'elle a de la sympathie pour moi. Chérie, me voici amoureuse. » Vita n'y va pas par quatre chemins. Une rencontre lui a suffi. Pourtant, tout oppose ces deux femmes de lettres. Vita possède une personnalité fougueuse, farouchement accrochée à la vie. Elle recherche l'ivresse des rencontres, se délecte du moment présent. À l'inverse, Virginia est d'une nature discrète, taciturne. Lorsqu'elle se rencontre en 1922, la romancière a déjà connu plusieurs périodes de dépression. Son travail d'écriture prime sur tout le reste. Les mondanités, oh, très peu pour elle. Pendant plusieurs mois, elles échangent peu. Mais Virginia ressent l'irrépressible envie d'en apprendre davantage sur Vita. Elle trouve la solution en lui proposant d'écrire un récit qu'elle et son mari publieront dans leur propre maison d'édition. Alors que Vita s'y attelle lors d'un voyage en Italie, elle tente une approche cavalière pour l'époque. Auriez-vous jamais l'idée de planter la Bloomsbury et la culture pour venir faire l'école buissonnière avec moi ? Mais Vita doit s'armer de patience. Il n'est pas donné à tout le monde de briser la glace avec Virginia Woolf, dont les réponses restent conventionnelles. « Ma chère Vita, êtes-vous rentrée ? Et avez-vous fini votre livre ? Qu'en pensez-vous pouvoir nous le donner ?» Pourtant, progressivement, la relation entre l'éditrice et l'écrivaine glisse vers une amitié plus ambiguë. En novembre 1924, Vita tente une visite à l'improviste chez elle, sans succès. Virginia est sortie se promener. Voici sa réponse. « J'aurais aisément pu être là, car j'avais très envie de vous voir. » La timide Madame Woolf semble se laisser aller à davantage de confidences. Mais leur histoire débute véritablement l'année suivante, lors d'un séjour inoubliable pour les deux femmes. Le 17 décembre 1925, Virginia rejoint Vita dans sa maison de Longbourn, à 100 km au sud-est de Londres. C'est durant ce week-end qu'elles vont enfin se découvrir pour la première fois dans leur intimité respective. Vita a pour réputation d'être une croqueuse de femmes. Plus de 50 amantes auraient succombé à ses charmes. Pour Virginia, en revanche, cette expérience est une révélation. C'est lors de ce week-end loin de Londres, de son mari et de son travail d'écriture, qu'elle peut enfin s'abandonner sans retenue dans les bras de celle qui l'attire depuis plus de 2 ans. Ce n'est un secret pour personne. Elle n'a jamais aimé faire l'amour avec son époux. En revanche, goûter au moindre centimètre carré de la peau de Vita la transporte. Elle s'en émeut dans son journal intime. Ces lesbiennes aiment les femmes, leur amitié ne va jamais sans érotisme. J'aime Vita, j'aime être avec elle et j'aime son rayonnement. Elle brille dans l'épicerie de Seven Oaks de l'éclat d'une bougie allumée. Vita, de son côté, parlera plus tard d'une explosion qui se produisit sur le sofa de ma chambre. Après ces moments uniques de vérité corporelle, rien ne sera plus comme avant. Les deux femmes, amoureuses, s'adressent désormais des lettres d'un romantisme rare. Vita, par exemple, l'implore dans l'un de ses courriers « Je t'en prie, dans tout ce fatras de la vie, continue d'être une étoile fixe et brillante. Il y a si peu de choses qui se perpétuent comme des phares, la poésie et toi et la solitude. » Parfois, les lettres sont bien plus enflammées. En janvier 1926, Virginia se lâche. « Oui, très chère créature, viens, viens demain, aussitôt que possible, et nous collerons des timbres et nous irons voir les poissons. »
Les deux amants. Parce qu'il y a un double sens là derrière, parce que coller des timbres, on connaît des activités plus érotiques, Stéphane.
Oh, la philatélie, vous savez, c'est très érotique. Les deux amantes sont inséparables, mais souvent séparées. Vita part souvent en voyage. À chaque fois, c'est une déchirure, particulièrement pour Virginia qui lui écrit. Oui, je pense souvent à toi. J'ai en tête des millions et des millions de choses à te dire. Diablesse que tu es de t'être enfui vers la Perse et de me planter là. Pourtant, au fil des mois et des années, l'euphorie, la passion amoureuse des débuts se dissipe. Et Vita se détache, succombe à d'autres femmes. Pour Virginia, le coup est dur à encaisser. En réponse, elle n'hésite pas à tancer sa cadette sur son style littéraire qu'elle juge, en privé, un peu dépassé. Quant au mot « juste », vous vous trompez complètement, le style est très simple, ce n'est qu'une affaire de rythme. Malgré tout, Virginia est éternellement attachée à son impétueuse Vita. Elle s'en inspire même pour le personnage principal de son livre, devenu un best-seller Orlando. Un livre que le fils de Vita, Nigel Nicholson, considère comme la plus longue lettre d'amour de l'histoire. La plus longue, mais pas la dernière. Après la publication, la relation entre les deux femmes s'apaise et elles entament une amitié solide. Elles s'écriront au total plus de 500 lettres. Jusqu'à ce que Virginia, plongée dans une nouvelle dépression, se suicide dans la rivière de Looz en 1941.
Europe 1, historiquement vôtre.